Bonjour et bienvenue dans l'émission où l'on parle enseignement de l'informatique dans le secondaire.
Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième émission podcast NSI. Aujourd'hui, un sujet d'actualité qui va intéresser les lycéens et leurs parents. En effet, on va parler d'orientation, c'est-à-dire se poser la question et y répondre. Que peut-on faire en ayant choisi la spécialité NSI en première et en l'ayant continué en terminale? Pour cela, on a réalisé 3 entretiens. Peux-tu préciser, David?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous déjà. Alors 3 entretiens. Un entretien avec un professeur de classe préparatoire. Un entretien avec une enseignante d'université qui va nous parler de LMD, hein, licence, master, doctorat. Et un entretien avec une enseignante d'IUT. Donc je vous propose tout de suite de commencer, hein, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, avec l'entretien réalisé avec l'enseignant de classe préparatoire.
Alors bonjour Marc, je te propose bonjour. De te présenter.
Bonjour, je suis donc Marc Defalco, je suis enseignant d'informatique en MP2I au lycée international de Valbonne, donc dans le sud-est. Et donc après, j'ai un parcours plutôt en informatique et après j'ai passé la grecque de maths à un moment donné dans mon parcours. Et après 10 ans d'enseignement de mathématiques en classe préparatoire, depuis cette année, je suis sur un poste plein d'informatique en MP2I.
Alors je te propose maintenant de nous présenter un petit peu les différentes classes prépa, parce que je suppose que parmi ceux qui nous écoutent, parents, élèves, et bon, pas les professeurs, quelques précisions seraient intéressantes.
Alors les classes préparatoires, hein, ce sont des classes préparatoires, donc celles dont je vais parler, ce sont des classes préparatoires scientifiques, je pense celles qui sont les plus importantes pour l'auditoire. Donc, ce sont des classes qui préparent aux grandes écoles d'ingénieurs et aux écoles normales supérieures. Donc ces écoles, on y accède par un concours, et donc c'est un concours qu'on fait au bout de 2 années de classes préparatoires. Les classes préparatoires, elles sont organisées par filière. Alors pour les prépas scientifiques hors BCPST, les écoles auxquelles on accède sont un petit peu les mêmes. Il y a une coloration suivant les filières, avec des filières qui sont orientées plus au niveau donc chimie, plus au niveau physique, technologie. Et les élèves vont dans les mêmes écoles globalement, mais parfois avec effectivement des affinités entre les écoles vis-à-vis de la coloration de la filière. Donc c'est des écoles donc les classes préparatoires, on y accède en post-bac, directement sur Parcoursup. Et donc une fois qu'on y est, en général le parcours est assez sécurisé sur les 2 années, hein, c'est-à-dire que quelque chose qu'on rentre en prépa en première année dans l'optique effectivement de suivre cette formation de 2 ans. Et de passer des concours dont les écrits sont à peu près vers avril de la 2e année. Et on a une série d'oraux en fin juin, début juillet, pour une intégration au symptôme de l'année d'après.
Ok, très bien, merci. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler un petit peu de la nouveauté de l'année, alors que je ne me trompe pas, c'était de l'année 2021, avec la filière MP2I-MPI?
Alors effectivement, la réforme du bac et notamment l'arrivée de la spécialité NSI, qui contrairement à ISN, n'était pas juste un petit ajout, une petite option, mais vraiment une grande spécialité scientifique à part entière, a nécessité de revoir un petit peu l'organisation des filières. Comme j'expliquais, il y avait une certaine coloration dans les filières qui faisait suite finalement à la coloration, enfin aux matières scientifiques au lycée. Et donc il y a eu une volonté effectivement de créer une classe préparatoire MP2I et donc MPI pour la 2e année, dont la coloration était l'informatique. Alors, faut entendre par là, par coloration, ce n'est pas une classe préparatoire informatique. C'est comme l'ensemble des classes préparatoires scientifiques dont je parlais. Les matières principales en général, c'est les mathématiques. La physique est une matière qui est importante. Et là, on rajoute une dominante dans cette classe préparatoire qui est l'informatique. Donc vraiment, les 3 lettres du cycle sont importantes, mathématiques, physique, informatique, pour les concours de cette filière. Ce sont vraiment des matières
importantes. Ok, mais là, ce qui m'intéresse aussi, moi, j'aimerais avoir des précisions. On a donc en lycée des élèves qui donc choisissent souvent NSI en première, puis après, ils ont un choix cornélien en terminale. Est-ce qu'ils vont garder NSI ou pas dans l'optique d'une classe prépa? Donc, ce qui serait intéressant de préciser pour les élèves, c'est de savoir voilà, comment se passe le recrutement, quelles sont les qualités ou les compétences que doivent, quels sont les profils aussi que doit avoir un élève pour réussir en classe prépa et comment vous les accueillez.
Alors, sur le point enfin, purement des prérequis, ce qui est important à prendre en compte, c'est le point de départ des programmes. Donc, en fait, le choix qui a été fait sur les filières, c'est de prendre le point de départ pour l'ensemble des classes préparatoires scientifiques. Donc, hors BCPST, c'est de prendre le point de départ en mathématiques de la fin de la terminale, de spécialité mathématique. Donc, la spécialité mathématique, elle est incontournable. Maths experte, ce n'est pas quelque chose qui, a priori, est requis. C'est quelque chose qui, effectivement, par contre, on trouve dans la plupart chez la plupart de nos élèves. C'est plus, à mon avis, une cohérence vis-à-vis du projet quelque chose sur lequel on sélectionne. Et donc, après, pour la prépa, donc MP2I, le programme de physique commence à la fin de celui de première et non pas de terminale. Donc, le prérequis, c'est d'avoir fait physique en première. Et pour le programme d'informatique, il n'a a priori pas de prérequis. Alors, il faut prendre ça avec un petit peu de pincette parce qu'effectivement, c'est un programme qui recouvre une bonne partie et qui approfondit une bonne partie du programme de NSI. Et donc, effectivement, un élève qui aura suivi NSI va avoir naturellement beaucoup d'ouverture et plus de facilité sur des notions parce qu'effectivement, on sait bien que pour comprendre des notions, les avoir fait plusieurs fois, même si on n'est pas allé forcément au fond des choses la première fois, ça permet en remettant une couche de pouvoir vraiment construire sur des bases solides. Et donc, effectivement, c'est le profil, on va dire, qui est vraiment privilégié. C'est un profil qui aurait fait maths physique NSI en première et en terminale maths experte et NSI. Mais pour autant, un élève qui a gardé physique en terminale peut être très bien accueilli et réussir très bien. Et même un élève qui n'a pas fait NSI en première aussi. Hein, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il a un projet finalement qui soit motivé. Parce qu'effectivement, la classe préparatoire, c'est une formation qui est exigeante, qui demande d'avoir plusieurs disciplines dans lesquelles on va vraiment à fond. Et donc, pour faire ça, il faut qu'il y ait une vraie volonté. Et donc, on ne peut pas se découvrir et s'improviser pour faire de l'informatique à haute dose, on va dire, en classe préparatoire.
D'accord. Et dans ta classe prépa, tu as accueilli des élèves qui avaient fait NSI en terminale, voire, je suppose, NSI en première. Et donc, est-ce que tu as senti qu'il y avait des différences? Et je vais reposer même une autre question. Est-ce que, désolé Marc, est-ce que le fait de je ne sais pas si c'est lié, mais de faire du Python alors que le langage est différent en classe prépa, est-ce que c'est gênant?
Alors, c'est pas. Alors, effectivement, c'est ces deux questions différentes. Alors, d'une part, sur la question du langage, c'est vrai qu'il y a une spécificité sur le programme de MP2I, MPI. C'est que c'est la classe préparatoire où on va demander NSI ou alors NSI, on va le recommander. Et pour autant, c'est celle dans laquelle on ne va pas avoir. On va pas faire de Python. Alors que dans les autres classes préparatoires scientifiques, on va faire Python, on va pratiquer Python dans celle-ci. Alors, les raisons sont simples au niveau du programme. Hein. Il y a une adéquation, une cohérence avec le programme qui fait qu'on n'avait pas la place pour un langage comme Python, qui était un petit peu un entre-deux. Une bonne partie de ce qu'on fait en Python en NSI, c'est de la programmation qu'on va retrouver dans le langage C. Et donc, à partir du moment où on fait du C avec les élèves, ils retrouvent leur marque au niveau de Python, enfin, au niveau de la structuration de leur pensée. Et effectivement, ils vont plus vite sur ces choses-là. Après, sur la partie qui est plus programmation fonctionnelle, ça veut qu'on ne voit pas forcément... tout le monde est a priori sur un pied d'égalité. Mais au-delà de ça, en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur les questions de langage. Parce qu'en fait, ce qui est important, surtout en NSI, ça va être le fait de s'être déjà intéressé à certaines problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va parler, par exemple, de gestion mémoire, quand on va parler de choses comme ça, quand on va parler même, ne serait-ce que des choses comme d'un processeur, même si on ne fait pas d'architecture, hein, mais ne serait-ce que d'avoir une idée de ces choses-là et d'y avoir déjà réfléchi, ben, ça permet de mieux pouvoir appréhender. C'est un petit peu comme si... Des fois, on apporte beaucoup de réponses. C'est mieux d'apporter des réponses à des questions que les élèves se sont déjà posées, en fait, plutôt que faire des fois de leur donner un problème et de le résoudre instantanément sans même qu'eux-mêmes aient eu le temps de digérer pourquoi ces questions se posent.
D'accord. Ben, je te rassure parce qu'en fait, je ne me rappelle plus de ma première question, mais je vais
faire sur... Et ta première question, j'ai un petit peu répondu, c'était sur le fait, effectivement, de savoir s'il y avait une grosse différence par rapport aux élèves de NSI.
Mais parce que le fait que nous, en terminale, de plus en plus, voilà, on forme pas les élèves. Enfin, je pense que ça te rassure, et David doit être d'accord avec moi, on ne fait pas des professionnels de Python, on va quand même au-delà. C'est le langage qu'on utilise, mais on essaye plutôt de les préparer au supérieur et à des études, on dirait, informatiques, sans préciser vraiment en faire des particularités de Python. Voilà.
Mais notre enseignement n'est pas très pythonesque, hein, de toute façon, en général. Hein.
Mais de la même manière que nous, finalement, sur le C, on va avoir un aspect très... On va survoler beaucoup le C, on va pas faire vraiment aller en profondeur dans le C, et même en OCaml, on va avoir une vision qui est... On va pas aller au bout de la vision fonctionnelle des choses, parce que les élèves sont pas prêts, en fait. Je pense qu'à partir du moment où les élèves ils sont en début de formation... ils ne sont pas encore prêts pour devenir des experts dans un langage, et ce n'est pas ça qu'on a à leur enseigner. On leur a enseigné des fondements. Ces fondements, on les enseigne, on les fait passer à travers un langage qui permet d'illustrer des notions. Donc, on a des langages qui permettent mieux pour certains que d'autres d'illustrer des notions, mais ce qui est important, ce sont les notions, ce n'est pas les éléments de syntaxe. Nos élèves ne vont pas passer leur temps à faire des programmes. Et même, en fait, on a des élèves qui, des fois, eux, par eux-mêmes, ont eu envie de faire beaucoup de programmation. Ils sont très doués là-dedans. Et c'est qu'un petit élément de ce qu'on va étudier, de ce qu'on va évaluer. Et donc, même si parfois d'autres élèves peuvent être un petit peu impressionnés des compétences de certains, mais en fait, ça s'estompe vite quand on pose un problème au tableau et qu'on réfléchit et qu'on montre qu'effectivement, l'informatique, c'est pas juste ça, et qu'en fait, il y a aussi un côté un petit peu équipe, c'est-à-dire qu'on peut imaginer très bien quelqu'un qui est expert, qui programme très très vite, ait besoin de quelqu'un qui réfléchisse bien et qui puisse coopérer, et tout ça, ça fait partie de l'informatique.
D'accord.
Alors, moi, je voulais te poser une question par rapport au concours. Et alors, je sais que pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de recul, hein, puisqu'il n'y a même pas eu de deuxième année encore. Mais est-ce que tu commences à avoir une tendance sur les écoles un petit peu qui vont proposer, qui vont ouvrir des concours à la filière MPI ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a déjà une petite tendance? C'est-à-dire, est-ce qu'un élève aujourd'hui qui désirait s'engager dans la filière MP2I parce qu'il aime l'informatique, hein, on a bien compris ça, est-ce qu'il est à peu près sûr de trouver un petit peu une école qui lui correspondra, quoi, derrière?
Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces prépas MP2I et puis les prépas MPI derrière, ce ne sont pas des créations. C'est-à-dire qu'on n'a pas des nouveaux élèves qui arrivent et qu'il va falloir placer en école. En fait, c'est des transformations de MPSI et de MP. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a moins d'élèves qui vont passer les concours sur ces filières-là. Et donc, pour compenser, il y a une perte de place pour les écoles. Or, les écoles ont besoin d'élèves et on a besoin d'ingénieurs. Et donc, les places vont naturellement se redistribuer. Donc là, à minima, et c'est ce qui a été annoncé par Centrale, on peut imaginer qu'il y ait un prorata, finalement, du nombre d'inscrits pour répartir les places. Et que donc, en fait, donc ça, c'est exactement ce qu'ont annoncé les écoles du groupe Centrale. C'est que les places soient redistribuées, les places... Qui aurait dû être attribué à des MP, se redistribuer sur les MPI au même prorata. Ce qui fait qu'entre guillemets, il y a les mêmes... Alors, j'aime pas trop parler de chances d'intégrer, parce qu'on n'intègre pas par chance, mais par travail, par beaucoup de volonté. Mais on va dire qu'il y a la même proportion entre MP et MPI. Après, il va y avoir une autre particularité, c'est qu'il y a des écoles, comme j'ai expliqué pour la chimie, il y a des écoles de chimie qui vont naturellement recruter sur PC. Il y a des écoles d'informatique qui recrutaient depuis des années majoritairement sur le concours MP par l'option info. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ces écoles-là, elles ne savaient pas dans les élèves qu'elles récupéraient si, quelles options ils avaient fait en MP. C'est-à-dire qu'en fait, ils pouvaient mettre un poids, mais le poids était le même sur les options entre sciences industrielles et informatique, et donc elles recrutaient un petit peu à l'aveugle, on va dire. Là, maintenant, ces écoles-là, naturellement, on comprend bien qu'elles ont tout intérêt à se positionner fortement sur la filière MPI, parce qu'elles vont être certaines de pouvoir recruter un profil d'élèves qui aura fait l'informatique sur lequel construire pour pouvoir faire la suite d'études. Donc là, il y a déjà eu des communications de l'ANSIMAG qui distribue un nombre de places sur MPI qui, pour le coup, est bien plus en proportion, bien plus important que celui sur le concours MP. Les écoles des ENS qui ont un concours informatique ont annoncé pour Ulm, Lyon et Cachan que la moitié des places allaient être sur le concours MPI, et pour Rennes que l'intégralité du concours info se ferait sur la filière MPI.
D'accord, mais pour préciser là, pour que je comprenne et que tout le monde comprenne, dans les concours, l'épreuve d'informatique, s'il y a, sera de plus en plus importante alors. Parce que tu dis que, on recrutera sur MPI, mais MPI c'est maths, physique, on va dire info, mais l'info aura un poids plus important.
Alors non seulement l'info aura un poids plus important, mais il y a de grandes chances. Alors on a déjà la maquette des mines, du concours Mines-Ponts. Donc sur la maquette du concours Mines-Ponts, on peut voir qu'il y a deux épreuves d'informatique à l'écrit, deux épreuves de physique, deux épreuves de mathématiques. Et donc au niveau des coefficients, je crois qu'on a un coefficient de plus à l'écrit pour l'informatique par rapport à la physique, et ça s'équilibre à l'oral. Et donc à l'oral aussi, on a des euros d'informatique, enfin on a un oral d'informatique. Et donc ça c'est une grande nouveauté, parce que jusqu'ici l'informatique était en prépa seulement évaluée sur papier.
D'accord.
Et donc là, on va avoir des épreuves orales. Alors, sous un format à préciser, hein, le format de Mines-Ponts, a priori, ça serait une sorte d'épreuve de TP ou avec une présentation. Et donc, oui, on va pouvoir évaluer les élèves et pouvoir dresser, effectivement, enfin, voir ce qu'ils veulent, effectivement, en informatique de manière précise sur cette filière, chose qu'on ne peut pas faire sur les autres filières.
D'accord. Et. David, si tu as une question.
Non, moi, vas-y, je t'en prie.
Moi, c'est toujours avec les questions des élèves et aussi des parents. C'est le fait, beaucoup de mes élèves ont souhaité aller en prépa. Oui. D'accord. Et avec des dossiers qui étaient assez exceptionnels, mais n'ont pas été reçus. Voilà, ma question est donc portée. Est-ce qu'il y a assez de classes prépa pour ces élèves, ou est-ce que vraiment le recrutement est très difficile, il y a des quotas. Et combien il y a de classes prépa et combien il y en aura l'année prochaine, voilà.
Actuellement, il y a 26 MP2I et l'an prochain, il y en aura 30. Et au niveau du recrutement, c'est très varié. C'est très varié, il faut voir qu'il y a eu un choix politique qui a été fait, qui est une bonne chose, qui était de ne pas avoir une concentration sur le bassin parisien de ces ouvertures. Alors même si ils essaient de corriger ça, le territoire n'est pas couvert.
Oui, parce que quand même la Bretagne fait partie de.
Oui, mais après c'est des questions d'ouverture. Enfin, c'est ouvrir avec une création, ouvrir avec une transformation, ça n'a pas la même complexité et sur le terrain c'est. Plus ou moins délicat. Mais bon, ça va être corrigé puisqu'il y a une MP2I qui ouvre à Vannes l'an prochain. Oui. Donc, il faut voir qu'effectivement, il y a le territoire qui est plus couvert. Il faut voir aussi que les établissements ne sont pas tous avec la même sélectivité et qu'il faut aussi que les professeurs de NSI et les élèves et leurs parents acceptent de s'ouvrir un petit peu sur des profils de classe un peu variés. Par exemple, il y a des établissements qui peuvent avoir un accès facile, des solutions d'hébergement, un internat, et donc permettre d'accueillir des élèves d'un petit peu partout et qui ont moins de demandes que des établissements très prestigieux dans lesquels il y a plus de chances, il y a plus de difficultés de rentrer, quoi. Donc oui. Là, actuellement, je pense que vu qu'il y a eu plusieurs classes préparatoires MP2I qui étaient en procédure complémentaire, Même si c'est, c'était pour quelques places hein, à chaque fois, bah, ça veut quand même dire qu'à un moment donné, il y avait de la place dans ces prépas-là. Donc, il y a des dossiers qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas candidaté sur ces classes.
Ouais, mais ce n'est pas évident, des fois, tu sais, pour un élève de bouger, de faire des centaines de kilomètres pour aller en classe prépa. Et la logistique est très importante. Et c'est vrai que le fait de dire que des fois, des prépas peut-être moins prestigieuses quand même offrent quand même d'énormes chances pour les élèves. Voilà, ils sont toujours focalisés souvent, je veux faire une grande prépa, comme ça, Non, toute prépa permet d'aller et de réussir les concours.
Oui, bien sûr. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, déjà, de toute façon, en termes du côté des enseignants, il faut voir que sur les MP2I, qui est quand même une nouveauté pour tout le monde, et notamment, enfin, surtout en informatique, il y a une communauté très, 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 très soudée des enseignants de classe préparatoire. Et donc, en fait, les élèves ont tendance à avoir une certaine concurrence qui n'existe pas au niveau des enseignants. On discute, on partage nos documents, on discute même parfois des élèves qu'ils ont eus parce qu'on a vu passer les dossiers et ce genre de choses. Donc, oui, il y a tout MP2I. Il ne faut pas hésiter à candidater à faire des vœux larges. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, la classe préparatoire qui va vous accepter, enfin, qui va accepter un élève, c'est la bonne classe préparatoire dans laquelle il pourra s'épanouir. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un élève qui est refusé dans une classe préparatoire comme Louis-le-Grand ou Saint-Louis, c'est pas qu'il n'a pas sa chance en prépa. C'est juste que peut-être que ça signifie que dans ces classes-là, il aurait été instantanément en situation d'échec. Et qu'en fait, il y a d'autres classes préparatoires dans la même filière qui vont l'aider à s'épanouir et à pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et après, si le système fonctionne, si on fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas accéder à d'excellentes écoles et se retrouver sur les mêmes bancs, la même école qu'un élève dont on n'est pas plus prestigieuse.
D'accord, merci Marc.
Très bien. Charles, est-ce que tu as encore d'autres questions ?
Oh, j'en ai des milliers, mais bon, là, on va s'arrêter.
D'accord. Marc, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ?
Je vais ajouter qu'effectivement, il y a des fois une certaine appréhension sur la classe préparatoire qui est vue comme qui a une certaine image d'Épinal qui traîne comme une sorte de bagne, quelque chose où on va souffrir. Et non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la classe préparatoire, c'est un endroit qui est où on est exigeant, mais on est avant tout exigeant envers soi-même, c'est-à-dire qu'on vous offre beaucoup de sciences d'un coup, une grande quantité, on vous ouvre sur beaucoup de matières en même temps, en allant en profondeur dans l'ensemble des matières, et on fait ça, et nous ce qu'on essaie de transmettre, c'est un plaisir d'apprendre. Alors c'est vrai qu'effectivement, il va falloir travailler, mais c'est pas un travail... On n'a pas besoin de ne pas dormir de se coucher à pas d'heure pour faire ça. Ce qui est important, c'est d'être épanoui et c'est d'avoir une régularité et d'avoir un travail qu'on fait avant tout parce qu'on a un projet et qu'on construit ce projet-là. Et donc l'ensemble des équipes pédagogiques dans l'ensemble des établissements, aussi prestigieux soient-ils, sont très ouverts aux élèves et on est là pour qu'ils s'épanouissent.
Bah, merci pour ce beau message que je partage totalement.
Oui. Ça donne envie même d'y aller, hein, mais je pense que...
Ouais, mais nous, on est un peu vieux.
J'ai candidaté l'année dernière, mais Marc ne m'a pas pris, donc...
Oui, j'ai pas vu ton dossier.
Bah d'accord. Si, tu l'as même pas regardé.
Mais si tu veux, ma classe, la porte de ma classe est ouverte, tu peux venir quand tu veux.
D'accord,
merci. T'aurais jamais dû lui dire ça, hein, parce que là... Bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup Marc pour nous avoir consacré du temps. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois, je suis persuadé.
Merci.
Allez, merci beaucoup.
Merci Marc.
Voici donc maintenant notre deuxième entretien avec une professeure d'université qui va nous parler du cursus LMD, licence, master, doctorat. Bonjour Florence, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour, je m'appelle Florence Sède, je suis professeure des universités à Toulouse, plus précisément au sein de l'université qui accueille les composantes relatives aux sciences et à la santé, qui est l'université Toulouse 3, Paul Sabatier. En tant qu'enseignant-chercheur, je mène mes activités de recherche à l'IRIT, qui est le labo d'informatique qui regroupe tous les enseignants-chercheurs en informatique de Toulouse. J'enseigne à tous les niveaux, post-bac, du S1 jusqu'au doctorat. J'enseigne aussi en BUT, en école d'ingénieurs, comme l'ENSET ou l'ENAC. Mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle maintenant, d'un nom un peu à la mode, data science, c'est-à-dire que je m'intéresse à la gestion des données au sens large, avec beaucoup de problématiques autour de l'intelligence artificielle et de ses biais, la protection des données, la cybersécurité, etc. J'enseigne donc au niveau de la licence, au niveau du master, et j'enseigne également auprès des doctorants et des doctorantes. L'idée de l'enseignement en informatique qu'on développe et qu'on dispense à l'université, c'est l'idée qu'en fait, on va apprendre à raisonner, à aborder un problème informatique, à interagir entre machines et utilisateurs, etc. Donc, on enseigne des langages support, évidemment, ou des modélisations support, Java, UML, SQL, mais tout ça dans des cadres beaucoup plus génériques, comme les applications mobiles, par exemple.
Merci, Florence. Maintenant, j'aimerais bien que, ça c'est pour à la fois pour les élèves qui nous écoutent et les parents, que tu nous précises un petit peu quelles sont les différentes filières que l'on retrouve à l'université.
Les universités françaises sont toutes autonomes, donc elles proposent des panels de licences qui peuvent varier d'une ville à une autre selon le contexte économique, la localisation géographique, etc. Donc les études universitaires, elles sont divisées en trois grands blocs. Un premier bloc qui s'appelle la licence, qui se déroule sur 3 ans, première année, deuxième année, troisième année de licence. À l'issue de cette licence générale, on peut prétendre à passer dans le cadre d'un master. Un master, c'est sur 2 ans, donc voilà. Et puis au-delà, donc continuer un doctorat. En parallèle avec ces licences, il y a des licences professionnelles, qui sont des licences destinées à des études beaucoup plus courtes et très, très appliquées, très orientées donc vers le métier. La licence informatique, puisqu'on parle ici plutôt d'informatique, c'est une licence qui n'est pas forcément offerte dans toutes les universités, mais qui est souvent une déclinaison d'un portail plus général de licence mathématique, par exemple, qui est parfois associée également aux sciences humaines et sociales. Il y a des licences MIAGE avec ensuite des parcours MIAGE, donc d'informatique appliquée à la gestion. Et on a différentes possibilités ensuite au-delà de la licence classique, comme les cursus de master en ingénierie, les écoles d'ingénieurs universitaires, les doubles licences, etc. Peut-être je devrais aborder un de ces points plus en détail.
Oui. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler, hein, puisque c'est ce qui peut éventuellement intéresser nos élèves actuels, de la licence d'informatique. Alors, bon, c'est comme tu l'as dit, hein, ça, à moins qu'ils aillent à Toulouse, ils ne rencontreront peut-être pas exactement ce que tu vas nous décrire maintenant. Mais bon, je pense qu'il peut quand même y avoir des points communs. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la licence d'informatique, qu'est-ce qu'on y fait, etc.
Donc, dans le cœur de la licence informatique, évidemment, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet apprentissage d'un mode de raisonnement et d'analyse des problèmes. Le langage informatique n'est pas une fin en soi, c'est un support qui va permettre d'apporter une solution programmatique à ces différents modes de raisonnement, à ces différents schémas de raisonnement. Le cœur de la discipline, c'est ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est-à-dire un schéma de résolution de problèmes, mais qui pourrait s'envisager indépendamment de tout langage. Il y a d'ailleurs certains enseignements qui se font sans machine, uniquement sur papier, comme des enseignements d'informatique débranchée, hein, qui permettent donc de s'entraîner à ce mode de résolution. En parallèle avec ces éléments de programmation, on a évidemment des choses qui sont plus relatives à l'outil ordinateur, c'est-à-dire l'architecture des machines, l'architecture au sens de ce que vous avez si vous désossez votre ordinateur et avec les composants, les différents périphériques, etc. Mais également l'architecture plus large, comme par exemple des architectures réseau, l'étude de l'architecture du réseau Internet, etc. Il y a ensuite systématiquement des éléments relatifs à l'apprentissage des langues vivantes. C'est quelque chose qui est très important pour donner de l'ouverture, pour permettre des mobilités dans le cadre des programmes Erasmus, qui sont des programmes très très importants au sein de nos universités. Donc, l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose qui doit être entretenu, qui n'est pas une contrainte. L'anglais, évidemment, est très souvent associé à l'informatique pour des raisons évidentes de syntaxe informatique et puis pour la possibilité d'aller lire des documentations techniques, etc., qui sont très souvent en anglais. Et on a ensuite une part d'enseignement relatif, des enseignements d'ouverture, par exemple, autour du management, de la gestion, des choses beaucoup plus larges. Il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est quelque chose qui repose beaucoup sur de la logique. La logique, c'est un des fondements des mathématiques, hein. Donc, il y a également pas mal d'enseignements qui ont trait aux mathématiques. Ce qui fait que ce qu'on peut conseiller aux lycéennes et lycéens qui seraient intéressés par cette voie-là, c'est d'avoir un final en terminale avec deux spécialités qui seraient les maths et l'informatique, par exemple. Maths et NSI, pardon.
Merci. Maintenant, j'aimerais bien, Florence, que tu me précises un petit peu comment ça se passe au niveau du recrutement en faculté, hein, parce que là, les élèves sont en pleine réflexion, Parcoursup, et souvent on dit, voilà, c'est Parcoursup qui, l'algorithme qui règle tout ça. Mais j'aimerais bien que tu précises un petit peu comment ça se passe au sein des universités, au sujet du recrutement, est-ce qu'il y a des quotas, etc.
Je dois reconnaître qu'on a très très peu de recul hein, sur cette procédure puisqu'on a eu un seul recrutement post-bac avec la nouvelle configuration du baccalauréat et en plus avec des jeunes gens, des lycéennes et des lycéens qui avaient quand même vécu deux années difficiles, des cours à mi-temps, en présentiel, etc. Je me garderai bien de repartir sur les résultats qu'on a eus cette année. Il faut être conscient de manière plus générale, indépendamment de notre conversation ici autour de la spécialité NSI, c'est que les établissements font leur interclassement avec des critères qui vont être affinés, bien entendu, au fil des années, quand on aura eu du recul sur les nouvelles générations de bacheliers et de bachelières. Parcoursup est une plateforme qui est destinée à recueillir des informations et qui va in fine interclasser les classements partiels des différents établissements et ensuite faire apparaître les 10% de boursiers, etc. Donc juste pour finir, je pense qu'on est encore dans une phase intermédiaire. Alors, la nuit avec cet enregistrement, c'est qu'il sera peut-être plus valable d'ici 3 ou 4 ans, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est dans une phase intermédiaire et qu'il y a autant d'incertitudes du côté de notre équipe qui réalise les classements, les quotas, le nombre de dossiers sur liste d'attente, que du côté des parents de lycéennes et lycéens. Voilà, il y a une certaine incertitude encore qui plane sur ces recrutements. Il est bien évident qu'on peut, même dans une L1 informatique, et c'est le but de la licence flexible qu'on essaie de mettre en place, on peut très bien accepter des gens qui auraient un profil plutôt maths physique, mais qui, dans leur lettre de motivation, auraient développé le fait qu'ils sont très à l'aise côté informatique. Hein. Ça arrive aussi. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir et de permettre à chacun de revenir à son niveau.
Je souhaiterais que tu reviennes maintenant sur cette licence que tu nommes flexible. Ce n'est pas une licence particulière, hein. C'est une licence informatique avec un côté flexible.
C'est ça.
Et donc, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu ce qu'on entend par licence flexible ?
Alors, on est bien conscient qu'au mois de... Alors, je n'ai pas les dates en tête cette année, là, mais au mois de mars, avril, quand on fait les choix définitifs et qu'on a 16, 17, 18 ans, s'engager sur une voie définitive pour savoir si on préfère les maths ou l'informatique ou les deux ou 80-20 ou etc., c'est compliqué. Donc, l'idée de cette mise en œuvre, c'est d'éviter les licences tubulaires comme on les a connues jusqu'à présent, qui obligeaient les lycéennes et lycéens à choisir, c'est-à-dire à rejeter une partie des disciplines et à s'engager définitivement en physique ou en chimie ou en maths ou en informatique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des modules des modules à la carte. C'est une licence qui sera un peu composite, hein, de manière beaucoup plus, avec des choix beaucoup plus flexibles, et qu'on pourra obtenir entre 2 et 4 ans. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que justement, du fait des choix des différentes spécialités, etc., certains étudiants puissent valider leur module en 2 ans, auquel cas, sur la troisième année, ils vont pouvoir partir à l'étranger, faire un stage longue durée, etc. Et puis, pour ceux qui ont plus de mal, on pourra la réaliser en 3 ans de manière classique ou un peu plus. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'ouvert qui va permettre à chacun de s'épanouir, à chacun et à chacune de s'épanouir sans subir ce diktat du choix qu'on a fait au deuxième trimestre de terminale et qui va vous peser sur les épaules toute la vie.
Alors, est-ce que maintenant, justement, tu pourrais un petit peu nous parler du profil type d'un élève pour ce cursus LMD, c'est-à-dire un petit peu, tu conseillerais ce cursus LMD à quel type d'élève, avec quel objectif
Le grand avantage des formations universitaires, quoi que puissent en penser certains parents qui pensent que lost in the university, mon enfant va être perdu, etc. Le grand avantage des formations universitaires, c'est qu'elles se sont beaucoup remises en question, elles ont beaucoup évolué, donc il n'y a plus les cours d'amphi à 1000 étudiants, en tout cas en sciences, hein, chez nous. Il y a du tutorat personnalisé, il y a des groupes de TD très restreints, et c'est à tel point que nous ne pouvons pas accueillir en première demande tous les étudiants qui ont l'intention de rentrer en licence. Donc, même en première année, même à l'université, il y a des oui-si ou des oui-mais, voilà, ou des refus. Donc, je sais que très souvent, les parents sont rassurés par des cursus plutôt de type BTS ou BUT, qu'il y a des gens qui sont capables de performer en CPGE. Eh bien, l'intérêt de cursus LMD, ou en tout cas L, hein, et puis ou L plus M, le D n'est pas quelque chose d'indispensable, hein. L'intérêt est donc de parvenir en fait à s'épanouir de manière individuelle et à son rythme. L'étudiant et l'étudiante est aidé, il est accompagné. Il y a des modules de remédiation, il y a des compensations, donc il ne faut plus avoir du tout l'angoisse de l'université où votre enfant est abandonné au milieu d'une foule inconnue, hostile, etc. Ce n'est plus du tout le cas, hein. Donc, beaucoup d'étudiants qui ont tenté, par exemple, les prépas intégrés dans les écoles d'ingénieurs de type INSA ou INP et qui n'ont pas trouvé leur compte parce que c'est contraignant, parce qu'on on est obligé de passer par 2 ans de formation très, très généraliste pour arriver enfin à faire ce qu'on veut, etc. Beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui reviennent à l'université en ayant bifurqué témoignent de l'intérêt qu'ils ont justement à faire des choix personnels, à trouver leur méthode de travail, fréquenter une BU parce qu'on a peut-être un peu moins de pression horaire qu'ailleurs et donc on peut venir s'ouvrir l'esprit. Pardon, oui, bibliothèque universitaire, pardon, voilà. Et ce n'est pas du tout le CDI du lycée. La bibliothèque, c'est un endroit où on peut venir travailler dans le calme. On peut venir imprimer des documents, on peut venir consulter des ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages numérisés, des revues, etc. Donc, il y a une autre manière de s'épanouir, une autre manière de réussir. On a des taux de réussite en licence qui parfois sont stigmatisés parce que c'est plutôt des taux de non-réussite. Hein, mais pour les gens qui sont assidus et qui arrivent à tenir le rythme d'un enseignement normal malgré l'éloignement de la famille, des parents, etc., il n'y a aucune raison de ne pas réussir.
C'est bien de préciser que l'université a changé et que maintenant, ce n'est plus l'université qu'on la connaissait, telle que parfois les parents connaissent et ont certaines idées préconçues. Je conseille maintenant aux élèves et aux parents d'aller discuter avec des étudiants ou d'aller dans des journées portes ouvertes.
Bien sûr, voilà, il y a les journées portes ouvertes, il y a beaucoup de salons étudiants. Alors, moi, j'aurais tendance à conseiller peut-être les salons gratuits, parce que quand les salons sont payants, c'est peut-être qu'il y a un modèle économique derrière. Donc, méfiance, hein, tous les rectorats organisent des salons. Bon, malheureusement, ces dernières années, c'était en virtuel. Ne pas hésiter à contacter via tous les sites web. Il y a des mails de contact. Il y a la possibilité de venir rencontrer les gens. Il n'y a aucun problème. Et surtout, ce problème d'effectifs qu'on a connu est un problème révolu, c'est-à-dire que dorénavant, les groupes sont limités, on fait travailler en projet, il y a des pédagogies différentes. Donc vraiment, il faut sortir de cette image qu'on a de la licence qui broie l'étudiant de manière anonyme. Voilà.
Ok. Est-ce que tu pourrais, on va parler un petit peu boulot maintenant hein, quand même, est-ce que tu pourrais un petit peu évoquer pour nous tout ce qui est projet professionnel, des choses comme ça. Enfin, quel métier on peut espérer faire un petit peu en sortant soit de licence, soit de master, au niveau caractère professionnalisant qu'apporte l'université?
On a développé avec un certain nombre d'associations et de sociétés savantes, on a développé un Zoom de l'ONICEP sur les métiers liés aux mathématiques. Alors, mathématiques, il ne faut pas en faire, ce n'est pas les maths traumatisantes, c'est maths, stats, informatique, etc., qui est très, très bien fait. Dont on peut retrouver facilement les références hein, via un moteur de recherche bien connu, et donc qui développe toutes les possibilités de métier. Ces possibilités de métier, alors, on peut les rencontrer à divers âges de la vie, hein, mais là, on va se focaliser évidemment sur le devenir des lycéens. Je vois une grande vertu au choix de la SPNSI en première et en terminale, c'est que quel que soit le métier qu'on pratiquera plus tard, donc moi je vais au-delà des professions informatiques, hein, quel que soit le métier qu'on pratiquera plus tard, qu'on soit ingénieur, technicien, en génie méca, en génie élec, en thermique, etc., on aura la nécessité de travailler via l'informatique. Hein. Il y a des modèles numériques, quel que soit le domaine, il y a des applications à installer, il y a des interfaces à mettre en œuvre, etc. Donc de toute façon, même si, à un moment donné, le cœur de la motivation n'est pas d'aller faire de l'informatique pure, et très souvent, d'ailleurs, on a une fausse image de l'informatique qui est uniquement le codage, cette spécialité, cette formation, elle sera nécessaire. Moi, je suis de l'avis des gens qui prônent le tronc commun, NSI en tronc commun. Voilà. Au-delà de ça, donc, les métiers. Alors, les métiers, ils sont dans un panel très large, hein, parce que on peut aller faire une licence d'informatique, être passionné en parallèle de géographie et on peut devenir spécialiste en géomatique. On peut faire une licence d'informatique, découvrir les éléments du langage naturel de la linguistique et devenir donc spécialiste en linguistique computationnelle, c'est-à-dire travailler par exemple à l'analyse des contenus des réseaux sociaux, l'analyse des sentiments, etc. On a des métiers évidemment beaucoup plus centraux qui sont ceux qui relèvent des composantes classiques de l'informatique, hein, donc ingénieur système, architecte système d'information, développeur web, etc. Et on peut comme ça marier des choses avec l'art, avec la musique, voilà. On peut ouvrir des portes. Très souvent, alors, oui, pardon.
Excuse-moi, je te coupe parce que tu viens d'en parler, donc j'en profite. Tu viens de parler d'ingénieur, système, etc. Bon, on sait que l'université ne délivre pas de diplôme d'ingénieur. Hein.
Si, il y a des écoles d'ingénieurs universitaires.
Voilà, il y a des écoles d'ingénieurs universitaires. Voilà. D'accord.
Le cursus master en ingénierie, c'est pas un titre d'ingénieur, mais c'est quand même quelque chose...
Mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que donc ce CMI, alors moi je connais parce que j'ai deux élèves qui sont partis faire ce cursus master en ingénierie, donc on n'obtient pas un diplôme d'ingénieur, à la fin, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on peut occuper un poste d'ingénieur. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu nuances?
Absolument. Quand je parlais d'ingénieur, c'était le titre d'ingénieur dans la profession, c'est-à-dire que sortir d'une université avec un master qui n'est pas un titre d'ingénieur, ça donne le titre d'ingénieur dans une boîte, bien sûr. Oui, bien sûr. Je fais bien la différence entre le titre d'ingénieur délivré par l'école et l'ingénieur dans sa fonction, dans un service informatique ou une organisation, etc. Bien sûr, tout à fait. Et il faut bien faire, l'ingénieur, c'est une fonction, c'est un titre professionnel, hein, bien sûr.
D'accord. Alors, on n'a plus de questions avec Charles. Est-ce que tu vois quelque chose? Ah, vas-y.
Juste un truc sur le CMI, le cursus Master en Ingénierie, c'est d'emblée un cursus en 5 ans, alors que le LMD, c'est 3 ans plus 2 ans. Voilà, hein, donc juste, voilà. Ou la licence pro. D'accord. Qui est une troisième année sur un cursus en 2 ans, pardon.
Oui, c'était juste une petite remarque que j'adresse aux parents et aux futurs étudiants, c'est que dans le domaine de l'informatique, il y a beaucoup d'offres par rapport aux demandes.
Il y a plus que de la demande, il y a un déficit de dizaines de milliers, de postes, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on manque tellement de jeunes diplômés qu'on est amené à former des gens plus matures et qui exercent d'autres fonctions dans notre domaine, et on les forme sur certaines parties très professionnalisantes de l'informatique, oui, bien sûr. Donc, c'est un domaine qui n'attend que les jeunes lycéennes et les jeunes lycéens qui vont se jeter à corps perdu dans l'informatique, je n'en doute pas, avec des enseignants comme vous.
Je te remercie pour cette remarque qui me fait plaisir, et je pense qu'elle s'adresse aussi et surtout à David.
Oui, bien sûr. Je pense qu'elle parlait surtout de toi.
Tous les deux. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire quand même, c'est que vous n'êtes pas représentatif quand même de la profession, parce que moi, je trouve qu'on a très, très peu et pas assez de filles en informatique. Alors, on n'en a pas assez dans les professions de l'informatique, mais il se trouve qu'on n'en a pas assez dans les filières, puisqu'on a très, très peu d'étudiantes en informatique. On est autour de 10-12% dans les filières informatiques pures. On est un peu au-dessus dans les écoles d'ingénieurs plus généralistes. Alors, par exemple, dans les prépas intégrés INSA, il y a beaucoup de filles, mais on sait qu'après, bon, elles sont peut-être parfois plus tentées par le génie biologique que par le génie informatique. Et donc, moi, je lance un vibrant appel aux filles qui écouteront ce podcast pour qu'elles essaient de se projeter sur cette spécialité NSI qui leur donnera des possibilités inimaginables, hein, en termes ensuite de métier, etc. Donc, encore une fois, consultez ce Zoom d'ONICEP sur les types de métiers. Nous sortirons bientôt des fiches qui vont accompagner la BD des décodeuses, dont une fiche sur les formations et les métiers également, qui va donner quelques ouvertures. Donc vraiment, moi j'encourage fortement les filles à ne pas se sentir éloignées de l'informatique, à ne pas rester sur les stéréotypes qu'on véhicule sur ces études et sur ces métiers, et s'engager avec toute leur créativité, toute leur envie dans ce domaine.
Je vais rebondir sur tes derniers propos et je pense que ça va être l'objet d'une prochaine émission que nous sommes déjà en train de préparer.
C'est déjà prévu. Très bonne initiative.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Florence pour ton intervention.
Merci à vous, merci pour votre initiative. Et écoutez, vous cherchez mon nom, que tous les parents et lycéens qui ont besoin d'être rassurés n'hésitent pas, vous trouverez mon adresse mail, et vraiment c'est avec beaucoup de bienveillance que les universités françaises accueilleront vos enfants.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup. Enfin, pour terminer, donc notre troisième entretien avec une enseignante d'IUT qui va donc nous parler des BUT.
Bonjour Brigitte, je te propose de te présenter aux auditeurs.
Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je suis Brigitte Lepévédic, je suis enseignante-chercheure en informatique et également directrice de l'IUT de Vannes. Et je suis également membre de la CCN, c'est-à-dire la Commission consultative nationale des IUT.
Merci beaucoup.
Alors, justement, puisque tu parles des IUT, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette filière d'études supérieures que sont les IUT d'abord en général, et puis après, on parlera peut-être un petit peu plus spécifiquement de l'informatique.
Très bien. Donc, l'IUT, c'est en fait un institut universitaire de technologie. C'est un IUT à peu près 50 ans comme formation. Donc, c'est bien installé dans le monde professionnel et dans le monde académique, c'est-à-dire qu'il a bien trouvé sa place. Et depuis septembre de cette année, on a ouvert l'IUT en 3 années, c'est-à-dire qu'on va maintenant former nos étudiants sur un niveau universitaire de 3 ans, donc une licence professionnelle, et on forme des étudiants avec un diplôme qui s'appelle le bachelor universitaire de technologie. Bachelor universitaire, donc à ne pas confondre avec un bachelor du privé, parce que là, effectivement, c'est bien un diplôme reconnu au niveau de l'État comme étant un niveau 3e année reconnu. Donc, c'est une formation, donc les IUT, qui est sélective à l'entrée. Mais par contre, maintenant, avec ce niveau Bac plus 3, le parcours pour les jeunes est sécurisé sur 3 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune sélection. Il lui reste qu'à réussir, bien évidemment, ses études. C'est une... Excusez-moi, oui ?
Non, vas-y, désolé, Brigitte.
Il y a 24 spécialités au niveau des IUT sur l'ensemble du territoire. Et chaque spécialité possède des spécificités de parcours pour se spécialiser dans des domaines professionnels un peu plus spécifiques.
D'accord. Et donc, tu as parlé du but. Le DUT existe toujours ?
Le DUT existe toujours, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui va être donné à Bac plus 2, c'est-à-dire que l'étudiant va rentrer dans un cycle L1, L2, L3, donc but 1, but 2, but 3, on a conservé la même philosophie. Et à la fin du but 2, il aura un DUT qui va lui être délivré en passant. C'est-à-dire que s'il reste chez nous, il aura un DUT en 2e année et il finira avec un BUT en 3e année.
D'accord. Alors maintenant, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est donc, voilà, je suis un élève de terminale, j'ai choisi la spécialité NSI, je souhaite rentrer en IUT et... est-ce que tu peux nous présenter un peu les différents IUT et les différents diplômes que offrent eh bien, les IUT ?
Alors, quand on a pris la spécialité, je dirais NSI en terminale, c'est déjà qu'on a un esprit assez scientifique. Donc, on va partir plus sur des spécialités scientifiques et orientées sur une je dirais, soit une poursuite d'études en informatique, soit sur une intégration professionnelle dans le monde de l'informatique. Donc, il y a 3-4 grands, je dirais, domaines. Il y a le DUT, le BUT informatique, donc là, qui est très, je dirais, la ligne assez directe. On a aussi des BUT de type GE2I, qui sont génie électrique et industrie. Donc là, on va plutôt partir sur des métiers informatiques industriels et la notion de programmation pour les systèmes embarqués. Donc, c'est une spécialité informatique. On va avoir le DUT MMI, qui va être, lui, les métiers du multimédia et de l'Internet, qui vont plus être sur des métiers d'informatique liés à l'infographie et la programmation d'applications mobiles. On va avoir aussi des BUT de type STID, donc statistique et informatique décisionnelle, où là, on va travailler sur l'informatique pour le traitement de la donnée. Donc là, on va plutôt être sur des outils d'analyse de données. Et on a le BUT informatique, donc là, qui est, je dirais, la voie qui a le plus de débouchés, je dirais, divers. C'est, on va travailler sur des applications sécurisées, sur la conception de réalisation d'applications et de solutions informatiques, et sur la gestion de données. Donc, quand on prend NSI, on a plusieurs BUT. Ces 4-là sont assez, je dirais, les tendances les plus facilement choisies par les jeunes au niveau de la terminale et de Parcoursup.
D'accord. Donc, on voit qu'il y a quand même... c'est assez éclectique. Et donc,
il y a une diversité, oui.
La diversité. Et donc, ce qui est commun, c'est un peu cette partie NSI. Mais après, suivant, je dirais, les appétences des élèves, on peut se diriger soit vers quelque chose d'industriel, donc ça va être sûrement lié au choix de la deuxième spécialité, voire de la spécialité aussi qu'on a choisie en première, et on va jusqu'à, je dirais, l'IUT, donc le MMI, donc c'est plus vers le design, vers d'autres choses, donc c'est assez voilà, divers. Ça, c'est intéressant, et de montrer aux élèves que voilà, ce qui est commun, c'est NSI, mais on peut avoir d'autres spécialités, et suivant après ce qu'on veut faire, et bien on choisit, quoi.
Oui, bien sûr. Par exemple, si on prend sciences, économie et sociales, on sera plus sur le GE2I parce qu'on a toute la partie industrie, donc connaissance de l'entreprise qui est beaucoup plus poussée. Donc, c'est bien de choisir ce type de spécialité.
D'accord. Voilà,
ça permet de compléter. Alors après, en première, il faut conserver les mathématiques. Ça reste, quand on veut partir dans des BUT scientifiques, les mathématiques en première sont nécessaires en complément d'une spécialité NSI.
D'accord, voire choisir l'option complémentaire mathématique en terminale, comme ça assure un certain niveau en mathématiques. D'accord.
Après, alors, en général, ils ont de l'appétence pour les sciences, donc c'est assez naturel qu'ils gardent un pied de ce côté-là.
Moi, ce qui me vas-y, David.
Ouais. Donc tu confirmes, Brigitte, que il est tout à fait possible d'avoir la spécialité mathématique en première et maths complémentaire en terminale pour aller en BUT. Ça pose
tout à fait.
Ça ne pose aucun problème. Ça c'est très très important, je pense.
Tu as raison de signaler, David.
Oui, tout à fait. C'est parce que c'est vrai qu'il y a eu cette crainte à un moment de est-ce que je dois arrêter les mathématiques pour me consacrer qu'à ça en terminale. Mais non, il y a tous les dossiers sont étudiés dans les IUT.
Oui, comme on voit cette diversité, et comme tu l'as dit tout à l'heure,
la diversité de recrutement, tout à fait.
Voilà, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une voie de réussite sur les 3 ans. Donc, une fois qu'on rentre, donc on est sélectionné, mais après, voilà, on s'engage, et puis tout est fait pour que l'élève réussisse.
Oui, tout à fait. Ça, on a mis en place depuis la rentrée nouvelle, donc c'est tout jeune, hein, c'est septembre 2020, la réforme, où on est passé à un diplôme Bac plus 3. Donc là, effectivement, on a changé de pédagogie dans les IUT. On est passé sur une pédagogie basée sur l'acquisition de compétences. Et cette acquisition de compétences, contrairement à l'université qui va avoir des cours beaucoup plus théoriques, si on prend par exemple le BUT informatique, qui est la voie la plus souvent choisie par les jeunes qui ont pris NSI, parce qu'ils ont déjà cette appétence pour l'informatique, 50% des heures vont être consacrées à l'enseignement pratique. Donc, ça veut dire qu'ils sont tout de suite mis en situation d'apprentissage dans des situations réelles. Ils ont 600 heures de projet et ils ont en plus des stages. Reste quand même 2000 heures de cours à assurer sur les 3 ans, mais on voit que la pédagogie, c'est vraiment basé sur l'enseignement pratique et la mise en situation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on veut s'insérer dans la voie professionnelle rapidement.
D'accord.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler, justement, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, du recrutement, c'est-à-dire de Parcoursup, hein, on sait que ça va être, pour les prochains mois, l'angoisse des parents et des élèves. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous parler, justement, de ce recrutement, et notamment d'une chose un petit peu particulière au niveau des IUT, c'est la part bac général, bac technologique.
Alors, là, toutes les filières sont gérées au niveau national. Donc, quel que soit l'endroit où on va postuler sur la France, les quotas sont identiques en fonction des spécialités. Donc, actuellement, si on prend les départements de type informatique, on est à 50% de bac général et 50% de bac technologique. Donc, c'est une proportion qui doit être déployée dans l'ensemble des spécialités, 50-50. Il y a quelques spécialités qui sont encore dérogatoires parce qu'il y a un vivier qui est insuffisant au niveau des lycées. Donc, par exemple, la filière STI2D, statistique et informatique décisionnelle, c'est une filière qui est ce qu'on appelle dérogatoire. Elle n'est qu'à 20 ou 30% de bacheliers technologiques parce que le vivier n'est pas suffisant. Donc, il faut bien se renseigner, mais la plupart des spécialités sont à 50%, je dirais, bac techno, bac généraux. Et les bacs techno qui sont en général dans ces filières scientifiques, c'est des STI2D. Donc, c'est la deuxième. Au niveau des bacs généraux, la plupart des spécialités pour être recrutées, ça va être mathématiques, NSI et sciences de l'ingénieur qui vont être visualisées sur l'ensemble du cursus du jeune, donc sur la première et sur la terminale.
D'accord. Donc c'est possible, par exemple, de faire NSI uniquement en première et quand même d'intégrer un BUT d'informatique derrière, ou tu conseilles plutôt quand même de continuer à NSI en terminale?
Alors, je pense que ça dépend quelle est la troisième option et quel est le BUT que le jeune va vouloir choisir. Par exemple, s'il a pris NSI mathématiques et sciences économiques et sociales, par exemple, qu'il a pris ce type de... Je prends trois options. S'il veut partir en DUT informatique, il va faire mieux qu'il garde mathématiques et numériques et sciences informatiques. S'il veut partir dans un STI 2D, il va mieux falloir qu'il garde mathématiques et sciences économiques et sociales, puisqu'il va être plus, il va avoir suffisamment de compétences déjà acquises sur sa première, alors qu'il va devoir se renforcer sur les données dans le monde économique. Donc, c'est vraiment un choix au niveau, je dirais, du BUT qu'il souhaite intégrer. Ça a une influence. Par contre, effectivement, on va regarder l'ensemble des spécialités sur les deux années, première et terminale, et s'il a ces deux options sur la première ou la terminale, ça ne sera pas déterminant pour la sélection.
D'accord.
D'accord, très bien, merci.
Il va montrer une appétence vraiment sur les domaines dans lesquels il va travailler ultérieurement. Donc, on sait très bien qu'il faut perdre une option en terminale. Donc, de toute façon, le jeune est obligé de faire un choix.
D'accord. Donc surtout se renseigner dès la première, quoi. Ça me semble ça. Fondamental.
Okay. Ouais, il faut que en fait, la demande soit cohérente avec ses études, voilà, qui montre un peu qu'il a envie. Mais tu parlais des quotas et donc... ce qui signifie peut-être que ce n'est pas évident. Voilà, vous avez beaucoup de demandes et peut-être pas assez de place par rapport aux demandes. Et donc, ça devient peut-être des fois difficile d'intégrer un IUT.
Alors, ça devient difficile d'intégrer un IUT. Alors, ça va, là encore, hein, je vais peut-être me répéter, mais ça dépend vraiment des spécialités. Au niveau de Parcoursup, quand le jeune va se connecter, il aura le nombre de dossiers déposés dans chaque spécialité. Parce que le nombre de dossiers déposés en BUT informatique est beaucoup plus important qu'en GE2I. Donc,
d'accord.
Ça veut dire que la sélection va... Alors, plus faible, c'est peut-être pas le mot exact, mais il est plus dur de rentrer dans un BUT informatique que dans un BUT GE2I, puisqu'il y a plus de dossiers. Et donc, la sélection se fait toujours par, je dirais, compétences acquises, donc classement au niveau des notes, bien évidemment.
D'accord.
Donc là, il faut vraiment que le jeune regarde bien le nombre de dossiers qui est déposé dans la spécialité.
D'accord. Donc ça, c'est assez clair. Il faut regarder sur donc Parcoursup,
hein, le taux. Ça, par contre, c'est bien. Ouais, c'est très très bien
c'est
indiqué.
Bien indiqué.
Oui.
Puis c'est indiqué aussi tout ce qu'il faut, un peu, voilà, les compétences requises, etc., pour construire un petit un dossier cohérent. Donc, on engage surtout les élèves, même de seconde, ceux qui ont déjà besoin de réfléchir, de constituer, voilà, des choix de spécialité cohérents par rapport un peu à ce qu'ils veulent faire.
Et de bien travailler la lettre de motivation. Parce que
la lettre de motivation.
Ça, c'est très, très important au niveau de l'examen des dossiers. Puisque, effectivement, on classe les étudiants alors sur un critère qui est somme toute assez académique, hein, ce sont les notes sur lesquelles ils sont classés. Mais ce classement des notes, au niveau des appréciations et de la lettre de motivation, ça modifie les classements qui sont uniquement numériques. Ça
permet,
donc là, il faut bien travailler et justifier justement du choix de ses options. C'est en fait, le jeune n'explique pas assez le pourquoi il a choisi telle et telle option. En
voilà,
fait,
tu conseilles pour la lettre de motivation, parce que bon, souvent, les lettres de motivation, je dirais, sont un peu négligées, voire faites par les parents. Et là, tu dis bien que le jeune, enfin, le futur étudiant doit... bien expliquer son choix et que ça soit vraiment cohérent. Quel type de profil d'élève vous avez alors dans ce cas-là que tu souhaites avoir pour les IUT ?
Alors, pour un IUT, alors là, je pense que c'est un petit peu conforme à l'ensemble des spécialités. Hein. Pour les DUT, quand on a pris maths, NSI, éco, physique, chimie, qui sont en fait des profils scientifiques. Donc là, si on n'a pas un profil scientifique, de toute façon, on a quand même peu de chances d'être admis dans un BUT scientifique. Parce qu'il y a une grande compétence que le jeune doit essayer de démontrer, alors soit dans sa lettre de motivation, soit dans les activités annexes qu'il a, parce qu'il néglige assez tout ce qu'il peut faire en termes d'associatif, ou en termes de communication à l'extérieur de la partie académique qu'ils peuvent avoir au lycée, c'est faut qu'on puisse détecter qu'ils ont cette aptitude à formaliser et à conceptualiser. Et en fait, ça ne se voit pas forcément que sur des notes académiques. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de projets qu'ils font au cours de leurs études, ils ne les mettent pas assez en avant. Et ces projets-là, c'est important d'en parler parce que ça ne se voit pas. Parce qu'on va chercher à détecter cette partie conceptualisation. On va essayer de voir aussi si ce sont des jeunes, alors ça, c'est des autres notes hein, qui sont un petit peu moins scientifiques, si ce sont des jeunes qui vont être à l'écoute. C'est-à-dire que lorsque l'on veut se lancer dans les métiers de l'informatique, il faut apprendre à écouter le besoin de la personne qui va faire la requête pour pouvoir, après, lui faire une solution technique. Mais cette phase d'écoute est pratiquement aussi importante que les compétences techniques pour répondre vraiment aux besoins, je veux dire du client, mais de la personne qui a besoin d'une application.
D'accord.
Il faut aussi être assez curieux et sensible à toutes les problématiques actuelles, parce que en fait, un outil, quand il est développé, doit répondre à une problématique sociétale pour pouvoir trouver un marché. Donc, il faut qu'il soit curieux, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la sécurité des données, à l'intelligence artificielle. Il faut vraiment qu'ils aient cette envie de curiosité pour pouvoir être force de proposition dans la réalisation de solutions.
D'accord.
Et le travail en groupe. Parce que l'informaticien qui travaille seul, ça n'existe plus depuis plusieurs années. Mais vraiment, travailler en groupe et vouloir travailler régulièrement. Parce qu'en fait, un outil informatique ou toute application se fait sur le temps. C'est-à-dire qu'on développe, on revient sur sa solution et on l'améliore. Donc, de la régularité et de la ténacité.
D'accord. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, donc on a vu un petit peu l'étude, c'est, voilà, l'élève a son but, son DUT. Y a-t-il du travail à la suite? Va-t-il trouver du travail? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle est la suite après avoir eu son but, son DUT?
Alors, il y a... quand le jeune va rentrer, donc la plupart des BUT commencent l'alternance en deuxième et en troisième année, ce qui permet aux jeunes, pendant cette première année universitaire, de se positionner, de réfléchir à la durée des études qui va se projeter. On dit très bien, quand on rentre en IUT, on assure qu'il va sortir avec un BUT, donc un bac plus 3, et qu'il pourra intégrer le marché du travail. Donc actuellement, on n'a pas de BUT qui sort puisque le diplôme est tout jeune, mais on a nos licences pro et on a 100% d'employabilité après une licence pro. Pourquoi? Parce que ces licences pro sont toutes en alternance. Donc un jeune, quand il arrive, il a beau dire « je veux arrêter mes études à Bac plus 3 », on lui laisse ce début d'année pour se projeter, découvrir les métiers. Donc l'ensemble des possibilités des métiers. Une fois qu'il a pris un peu cette connaissance de l'ensemble des métiers possibles avec une spécialité en informatique, donc NSI, donc qui est très très large, il a deux options qui s'offrent à lui. Soit au niveau de la deuxième année, il va choisir un contrat d'alternance avec une société. Et dans ces cas-là, s'il choisit l'alternance dans son parcours de BUT, ça le contraint à aller jusqu'à la troisième année, donc d'être diplômé à Bac plus 3. Puisque l'on doit avoir une alternance sur la délivrance d'un diplôme. S'il souhaite intégrer, ou il se pose la question, école d'ingénieur, où je ne suis pas encore sûre à la fin de ma deuxième année, il a cette possibilité de ce qu'on appelle d'avoir des passerelles, c'est-à-dire qu'à la fin de la deuxième année, il pourra intégrer, s'il le souhaite, une école d'ingénieur ou intégrer une licence générale. Alors, c'est les étudiants qui vont avoir cette possibilité de sortir. Et donc, là, ils ont une sélection parce qu'il faut qu'ils redéposent un dossier dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs. C'est censé être les meilleurs, sans vouloir être désagréable pour ceux qui auraient choisi un autre parcours. C'est vraiment des étudiants qui ont cette capacité à pouvoir aller en master. Si, à la fin de cette deuxième année, ils ne sont pas pris ou parce que en fait, ils ne souhaitent pas... je dirais, ils se sont ravisés sur leur choix professionnel et qui préfèrent assurer un diplôme avec une employabilité, dans ces cas-là, ils intègrent naturellement la troisième année puisqu'il est sécurisé et ils partent en alternance que sur la troisième année. Donc, le jeune a le choix de faire évoluer son parcours professionnel dans les IUT. Il n'est pas conditionné dès son entrée à aller à sortir à Bac plus 2 ou à Bac plus 3.
D'accord, merci. David ?
Non, moi, j'ai plus de questions. Alors, est-ce que Brigitte, tu as encore des choses à ajouter ou...
Alors, ce qui est intéressant de bien noter, je ne l'ai peut-être pas assez insisté, les BUT sont des programmes nationaux. Donc, sur l'ensemble du territoire, on aura le même programme. Ce qu'il faut qu'ils fassent attention, les jeunes, c'est sur les parcours qui sont ouverts. Parce que dans toutes les universités, on n'ouvre pas les mêmes parcours. Par exemple, au BUT informatique, on va ouvrir 2, 3 ou 4 parcours sur l'ensemble des parcours proposés. Donc, si vous voulez travailler, par exemple, en administration ou gestion des données, tous les IUT ne vont pas ouvrir ce parcours-là. Tous ne vont pas ouvrir le parcours réseau.
D'accord, donc, oui.
Le parcours sup, qu'ils soient bien vigilants de regarder s'ils ont déjà un choix, parce qu'il faut déjà être extrêmement pointu, mais certains savent très bien qu'ils veulent partir sur la cybersécurité ou veulent partir dans une SS2I, travailler comme développeur logiciel. Donc déjà, avant de s'inscrire, qu'ils vérifient que le parcours sur lequel ils savent déjà qu'ils vont pouvoir partir est bien présent. Ça, c'est bien. Même si c'est des parcours. Donc là, une fois que le parcours est choisi, n'importe quelle université qui fait son parcours, parce que les programmes sont nationaux, et on a, et ça, il faut faire attention, 30% d'adaptation locale.
D'accord, oui, ça, c'est bien de le préciser.
Oui, ça veut dire que les universités vont avoir des spécificités. C'est-à-dire que s'ils vont choisir, je dirais, informatique au niveau de New York, par exemple, il y a beaucoup d'assurances. Donc, ils vont être déjà un petit peu conditionnés sur des métiers liés au métier des assurances, ce genre de choses, parce que l'employabilité est sur ce domaine-là. Vous voyez ? Donc, en fait, il faut faire attention à l'endroit où on postule. Il ne faut pas forcément rester en local. Je sais que ce sont des frais après, parce que en général, on peut essayer de choisir les IUT qui sont désignés sur le territoire, c'est à proximité. Mais effectivement, quand on va choisir un IUT, on aura une spécificité liée à l'employabilité du territoire. Parce que justement, le but, c'est de les mettre sur le marché du travail. Donc, il y a cette notion qu'il faut être assez vigilant. Et le jeune, c'est vrai qu'à 18 ans, il n'est peut-être pas tout à fait... je dirais, attentif à ses choix, qui peuvent orienter après son parcours professionnel.
Bah, très bien.
Ça, c'était très important de préciser ça.
Bon, bah, je crois qu'on a terminé, David.
Oui, en tout cas, merci beaucoup, Brigitte. C'était extrêmement intéressant.
Merci à vous pour cette
invitation. Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle sera utile pour les élèves et les parents d'élèves. On va vous dire à la prochaine fois et on tient encore une fois à remercier chaleureusement nos 3 invités qui ont fait preuve d'une grande disponibilité. Et voilà, Charles, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on se quitte ?
Exactement les mêmes propos que toi. Je remercie chaleureusement nos 3 invités, une émission très claire, et donc j'espère que ça va faire réfléchir les élèves ainsi que leurs parents. À bientôt.
Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. We dive in your heart with no fear of the right, and we know we couldn't die, and we know.